Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu.
Donc, nous allons parler pendant une heure. Alors, il va falloir condenser sur l'enseignement de Jésus. Donc, c'est un vaste programme. Donc, j'ai prévu trois parties. La première partie, Jésus annonce le royaume de Dieu. Deuxième partie, comment entrer dans ce royaume de vérité et d'amour. Et en troisième partie, le chemin intérieur vers le royaume ou le pèlerinage intérieur. Si vous voulez éviter de prendre des notes, je peux vous envoyer après l'ensemble de mon... parce que j'ai mis beaucoup de citations et tout, que je ne vais pas avoir le temps de développer là. Donc, mais c'est des textes que vous connaissez, auxquels on va faire référence. Donc, voilà, ça va. Je vais être obligée de survoler pour tenir dans le temps imparti. Donc, dans l'enseignement de Jésus, dès le début de sa prédication, on voit qu'il centre son enseignement sur le royaume de Dieu. Donc, c'est une expression qu'on retrouve très souvent chez les évangélistes, surtout chez les synoptiques, et seulement deux fois chez Jean, qui lui insiste davantage sur Jérusalem. Donc on voit que Jésus cherche à capter l'attention de ses auditeurs et donc les rejoint dans dans ce qu'ils connaissent, dans la vie concrète. Donc pour parler de ce royaume, il va déployer des métaphores et des comparaisons. Donc le roi qui célèbre le mariage de son fils, des hommes qui attendent leur maître, des jeunes filles qui vont au-devant de l'époux, un festin, un trésor, une perle, le levain dans la pâte, la graine de moutarde. Il emploie aussi des paraboles, la parabole du semeur, celle du maître qui a semé le bon grain avec l'ivraie. Quand il s'adresse à des pêcheurs, il va employer l'image du filet. Mais on voit dans ces différents exemples qu'il emploie que la croissance du royaume est indépendante de l'activité humaine. Alors Jésus ne récuse pas l'imagerie du feu qui purifie, parce qu'après, il arrive après le discours de Jean-Baptiste, qui lui était beaucoup plus avait une prédication beaucoup plus austère. Donc il adapte et il réinterprète l'héritage de Jean-Baptiste. Le jugement ne viendra pas tout de suite. Le royaume n'est pas une menace, mais au contraire, le temps du pardon et de la miséricorde sans limite, qui soulage toutes les détresses, restaure la créature dans la plénitude de sa création divine. Le trésor, la perle qu'il se faut hâter d'acquérir, c'est lui, c'est Dieu, c'est l'amour. Dieu accorde gratuitement et en abondance son pardon miséricordieux, alors que les hommes n'ont aucun droit à y prétendre. Quel que soit le travail effectué, le salaire est le même. On le voit dans la parabole des ouvriers. L'essentiel, c'est d'avoir accepté de travailler à la vigne du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ce royaume ? Donc, c'est la bonne nouvelle, la seigneurie de Dieu, sa puissance miséricordieuse et libératrice se réalisant dans la création, dans son peuple et son histoire. On voit que ce royaume, il est caché aux sages et aux intelligents, mais révélé aux tout petits. C'est un cadeau, un bienfait inimaginable, unique, qui résume à lui seul toutes les promesses d'amour, de pardon et de rassemblement d'Israël, telles que les prophètes les avaient annoncées. Cette image, à multiples facettes, invite à vivre dans l'attente et l'espérance face à sa valeur infinie. Qu'il soit à la fois présent et futur semble à première vue paradoxal. Quelle est donc cette mystérieuse réalité ? On est dans l'entre-deux, entre le déjà-là et le pas encore. Car le royaume, c'est lui, Jésus de Nazareth au milieu des siens, mais dont la vraie nature christique ne se dévoilera qu'après sa mort. C'est ce que nous dit Joseph Ratzinger. Par notre baptême, nous sommes entrés dans un chemin de vie nouvelle, dont le but final est le royaume du Christ. Nous sommes donc à la fois sur le chemin du royaume et il est déjà bien présent en nous-mêmes. Et ce chemin, c'est dans l'Église que nous l'accomplissons. Le royaume est un univers spirituel nouveau qui apparaît dans l'Église corps du Christ, dans lequel nous accomplissons notre pèlerinage intérieur tout en vivant notre vie terrestre. Le royaume céleste est à l'image des royaumes terrestres, mais c'est le Christ roi qui gouverne son royaume. Son royaume, c'est lui-même, sa propre vie, qu'il offre en partage à ses sujets. Donc au cours de ses enseignements, Jésus a laissé entrevoir progressivement ce que pouvait être ce royaume. Et donc après toutes les paraboles et les comparaisons qu'il a pu employer, on retrouve aussi à travers les béatitudes cette vie nouvelle. Et Matthieu donc les a rassemblés en 5 grands discours, des thèmes qui ont probablement été énoncés à différentes occasions. Donc c'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Donc ce discours s'ouvre sur les béatitudes. Donc je ne vais pas détailler non plus parce que voilà, on a peu de temps. Donc on voit que dans la littérature apocalyptique, ces béatitudes dépassent le simple plan moral. Elles se présentent comme un appel à supporter les souffrances en ce bas monde et une promesse de consolation au dernier jour. On les trouve dans Matthieu, dans Luc, deux formulations différentes. Et quelle que soit leur formulation, elles reflètent la pensée profonde de Jésus. Les pauvres, les affligés, les tourmentés, les sans-voix, terrassés par l'épreuve, victimes de la tyrannie des puissants, les cœurs purs, sont désignés comme les premiers bénéficiaires du royaume à venir, celui de la vie éternelle. Les pauvres dans l'esprit, les pauvres de cœur, correspondent à une formule sémitique typique. Dans leurs hymnes, les membres de la communauté essénienne de Qumran s'appelaient eux-mêmes « pauvres de la grâce »,« pauvres de ta rédemption ». Chez les Hébreux, les pauvres étaient devenus presque synonymes d'hommes pieux, s'abandonnant à la providence divine. L'essentiel est donc que celui qui se présente devant Dieu ait les mains vides, qu'il soit disponible pour sa grâce. Jésus ne veut pas unir les prolétaires ni culbuter l'ordre social. « Mon royaume n'est pas de ce monde », dira-t-il à Pilate. L'indigence, la pauvreté matérielle, prédispose davantage au royaume que la richesse des repus qui obscurcit le cœur et en éloigne. On ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Par rapport à la loi, Jésus approfondit les commandements de la loi de Moïse. Au lieu de les considérer comme des préceptes extérieurs à l'homme, il les intériorise. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il débarrasse le décalogue de son interprétation réductrice, celle d'une simple morale sociale, prohibant le meurtre, le vol et l'adultère. La morale qu'enseigne Jésus est une morale transcendantale, fondée sur la relation des hommes avec Dieu. Donc on voit par rapport à la loi, Jésus reprend donc en s'appuyant sur la loi du talion. Vous avez appris qu'il a été dit, etc. Donc il reprend pour différents exemples pour arriver au commandement absolu de l'amour. L'amour du prochain est ainsi au cœur du discours sur la montagne. Ce précepte divin d'aimer son prochain figurait déjà dans le Lévitique. Mais qui était ce prochain? Les Juifs n'allaient pas au-delà du cercle de leurs concitoyens. Les gentils, c'est-à-dire les étrangers, les Samaritains, les Iduméens, étaient rejetés. L'amour du prochain avait ses limites et ne s'étendait pas à ceux que l'on considérait comme les ennemis de Dieu. Et donc, il y a le texte « Seigneur, comment ne pas haïr ceux qui te haïssent? Comment ne pas vomir ceux qui te combattent? Je les hais d'une haine parfaite, ils sont devenus mes propres ennemis. » C'est dans un psaume. Donc on voit donc que le commandement de Jésus est bien loin de ce que pratiquaient les Juifs de son temps et qu'ils rompt avec leur interprétation de la loi. Et en sachant tout ça, on comprend mieux le sens de la parabole du bon Samaritain. Quand Jésus parle d'aimer son prochain et qui est mon prochain, c'est vraiment tout homme et pas seulement le cercle restreint. Donc après le commandement absolu de l'amour, il parle aussi de l'aumône, du jeûne, de la prière, qui étaient les piliers de la pratique culturelle juive. Alors là aussi, Jésus recommande d'agir avec discrétion, dans le secret. Ce qui compte, c'est l'ouverture à Dieu et la sincérité de la démarche. Dieu sait à l'avance ce dont les hommes ont besoin. Il est superflu de multiplier les paroles ou de les répéter machinalement. Par contre, il ne rejette pas les demandes insistantes. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et donc, à travers le Notre Père, l'unique prière enseignée par Jésus, dont on trouve deux versions dans les évangiles, une plus développée en Matthieu 6, 9, 15 et une plus condensée en Luc 11, 2, 4. Alors là, c'est pareil, je vais pas développer tout ça. Donc, à ses disciples, Jésus assure aussi qu'ils sont le sel de la terre. Donc on voit que le sel, c'est effectivement essentiel à la fois pour révéler le goût et en même temps pour conserver. Donc en définitive, la seule attitude qui vaille est de se laisser transformer de l'intérieur par la parole de Dieu et de s'y abandonner totalement. Laissez là, dit-il, les préoccupations du quotidien qui enchaînent l'homme, le souci de la nourriture ou de la boisson. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera surajouté. À quoi sert de gagner le monde entier si on perd sa vie? Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc l'homme doit dépendre de Dieu comme le petit de sa mère. Jésus insiste sur cette voie de l'enfance, qui est celle de la confiance totale. Alors les disciples s'interrogent entre eux pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume. Il appelle un enfant et le place au milieu d'eux. Un autre jour, Jésus, en réaction à ses disciples qui veulent écarter des enfants, dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. » Mais il dit aussi « Qui scandalisera l'un de ses petits, mieux vaudrait pour lui qu'on suspende à son cou la meule, que fait tourner l'âne et qu'on le précipite dans les profondeurs de la mer. Donc on voit que Jésus ne se présente pas comme le professeur d'une morale fossilisée, définissant une liste d'interdits, mais comme l'instigateur d'un amour, en esprit et en vérité. Il montre à la fois la proximité, la tendresse de Dieu, l'immensité du salut offert à tous et la porte étroite par laquelle il faut passer, le chemin resserré qu'il faut parcourir pour y parvenir. Le salut ne sera pas donné sans effort d'une authentique conversion. Il ne suffira pas de gémir « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume, mais de faire la volonté du Père. Les tièdes, les mous, les béats qui écoutent passivement seront vomis. Donc on voit que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Tendre systématiquement la joue gauche, abandonner son manteau à qui le demande, doubler la corvée, dépasser son gagne-pain pour s'abandonner à la providence. Ce qui est requis est une profonde disposition intérieure. Ne pas exiger âprement son dû. Renoncer le plus souvent possible à son droit. Opposer la douceur à la violence, le désintéressement à la rapacité. Bref, refuser d'opposer la violence à la violence et vaincre le mal par le bien. Donc on voit que tout ça, l'idéal donc prôné par Jésus est le plus haut qui soit. Il renverse les valeurs de la loi, il bouscule les valeurs de la loi juive de l'époque. Et vraiment, il a une exigence radicale. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et quand quelqu'un lui répond qu'il peut être sauvé, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc on voit que Jésus est juif et il l'est totalement. Cependant, son comportement, son message montre qu'il est un juif atypique, qui refuse de se laisser enfermer dans les factions de son temps, et les subtilités casuistiques. Il ne s'identifie à aucune d'elles. La loi mosaïque cesse d'être absolue. Elle est relativisée par sa parole. Un nouvel âge commence. À l'ordre de la contrainte se substitue celui de la libération. Comment ses contemporains, attachés à la foi des ancêtres et pieusement conservés, n'en auraient-ils pas été troublés et choqués? Donc on voit que Jésus accomplit la loi et en même temps la dépasse. Pour autant, il n'est pas un réformateur politique. Il ne dénonce pas les injustices à l'image de ce qu'ont fait les prophètes, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie. On ne relève chez lui aucune parole contre l'esclavage, contre l'occupation romaine ou l'exploitation économique des plus pauvres. L'ordre social semble désintéressé. Et pourtant, tout son enseignement, absolument tout, condamne les systèmes de domination. Les chefs des nations exercent sur elles leur domination. Les grands exercent sur elles leur pouvoir. Il n'en sera pas de même parmi vous. Ces paroles impliquent un appel à fonder les rapports sociaux sur le partage, le respect de l'autre, l'amour fraternel, le rejet de la violence des puissants. Mais la révolution est d'abord une révolution intérieure qui doit tout transformer. Le renversement évangélique commence par la subversion des cœurs. Et donc on voit que finalement c'est à la fin de sa vie, quand il comparaîtra devant Pilate, que Jésus précisera la nature de son royaume. Et le motif de l'accusation portée par les Juifs concerne justement cette royauté. Pilate a dû recevoir les accusateurs parce qu'il y a matière à s'inquiéter que quelqu'un puisse se proclamer roi, car il s'oppose ainsi à César et compromet ce qui fait la sécurité et l'ordre public. Pilate ne sortira pas convaincu de cette rencontre, lui l'agnostique, mais par contre il sera convaincu de la jalousie des Juifs qui veulent éliminer Jésus. Donc l'interrogatoire de Pilate à Jésus est l'occasion pour lui de se déclarer clairement roi. Pilate, de nouveau dans le prétoire, il appela Jésus et dit « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors « Donc tu es roi ?» Jésus répondit « Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde. Et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité, écoute ma voix. » Donc, comme on le voit, le dialogue commence par une simple interrogation. Et Jésus détourne la réponse, comme il le fait souvent, pour que Pilate se détermine lui-même sur cette question de sa royauté qu'il fait mine d'ignorer. Jésus répond en disant qu'il n'a rien fait qui puisse nuire à l'État, parce que son royaume n'est pas de ce monde. Dès lors, Pilate s'exclame « Alors, tu es bien roi ?»« Oui, dit Jésus, mais d'une autre royauté, celle de la vérité. » Et après, donc, le dialogue s'engage sur la vérité. Donc, Jésus est bien roi, mais avant tout le roi de la vérité, qui oblige tout homme à se juger devant sa propre conscience naturelle, qui est le tribunal naturel du Christ en soi-même. Alors maintenant, nous abordons la deuxième partie, comment rentrer dans ce royaume de vérité et d'amour. Donc vivre les béatitudes et les annoncer, être juste d'une justice qui surpasse les scribes et les pharisiens, se faire petit comme un enfant, se mettre au service les uns des autres à l'image du Christ serviteur, tout cela nous met sur le chemin du royaume et nous prédispose à y entrer. Mais la porte d'entrée, c'est l'Église en tant que corps du Christ. Si la prière est essentielle pour connaître le royaume, une prière intime qui met en lien avec le Père et l'Église est l'étape nécessaire qui mène au royaume. C'est par les sacrements qui sont les signes efficaces que les fidèles accèdent à la vie du royaume. L'Église ne peut pas donner la visibilité du royaume, elle ne peut en être que le chemin. Mais elle est le chemin créé par Jésus, le seul authentique chemin, même si d'autres chemins parallèles peuvent aider les croyants à faire un bout de chemin. C'est toujours dans l'Église que les hommes marchent vers le royaume, même sans s'en rendre compte. Les deux sacrements essentiels dont je vais parler, c'est le baptême et l'Eucharistie. Donc le baptême se célèbre dans ce monde où nous sommes avec des signes et des symboles, des paroles empruntées à ce monde, mais la célébration ouvre sur l'univers du royaume. En recevant le baptême, le baptisé entre dans le corps du Christ, dans la vie du ressuscité. Le baptisé quitte sa vieille vie, ses peaux de bête reçues après la chute, pour entrer dans le nouveau réel, le vrai réel, le corps du Christ. Il n'a pas besoin pour cela de quitter le monde, de s'enfuir au désert. Il reste dans le monde, mais il ne vit plus selon les lois et les valeurs de ce monde-ci. C'est à partir de toutes les réalités concrètes actuelles terrestres qu'il est appelé à vivre sa condition nouvelle. Son premier travail est de renouveler son jugement sur toute chose, comme lui demande saint Paul. Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Sortir de l'illusion qu'il n'y a que cette vie actuelle, que l'homme est bon par nature, est le premier moment pour trouver l'essentiel, le chemin de la vérité qui est celui que nous offre le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'être renouvelé par le baptême doit prier sans attendre, car la vie spirituelle nouvelle qu'il a reçue est un don gracieux. C'est la vie que le Saint-Esprit développe dans la vie même du croyant, dont il vient épouser la sensibilité, l'intelligence, la volonté, pour transformer son vieil homme en homme nouveau. Un homme que l'on nomme pneumatophore, c'est-à-dire porteur d'esprit, capable de dire « Abba, Père ». Et saint Paul le dit aux Galates, « Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Donc pour coopérer à cette œuvre divine de transformation de l'être, de divinisation, le baptisé a le secours des sacrements de l'Église, l'accès à la communion des biens spirituels, le témoignage et l'aide concrète de ses frères et sœurs. L'Église change la nature des choses en se les adaptant. C'est d'abord la conception du temps. Avant le christianisme, les civilisations avaient la conception d'un temps cyclique. C'est ce que dit Coëlette, pas le prophète. Rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, est et sera demain. Avec le christianisme, le temps a reçu son orientation. Il revient certes chaque année pour vivre les événements du salut, mais il entraîne le monde vers sa fin, qui sera le jugement dernier. Concrètement, le calendrier des 7 jours des Juifs reste celui de l'Église, mais avec cette nouveauté importante, le premier jour de la semaine devient le dimanche, le jour de la résurrection. Il en va de même pour l'espace. Le sol a été aussi baptisé. L'Église l'a saisi pour en faire une représentation du royaume. En effet, une église est édifiée sur la croix qui désigne la nef, le transept et le cœur. Elle s'élève vers le ciel par ses clochers et ses tours. La liturgie orientale décrit par la coupole la voûte céleste, au sommet de laquelle le Christ Pantocrator, puissant, domine et éclaire le monde comme le fait le soleil de ses rayons. Mais c'est surtout la liturgie eucharistique qui est la célébration du royaume. Le monde occidental a tendance à faire de l'Eucharistie une célébration très humaine, où tout concourt au bien de l'homme terrestre. La liturgie orientale, avec ses symboles, veut célébrer Dieu et le royaume de Dieu avant tout. Nous parlons de la messe, alors que l'Orient chrétien appelle la sainte liturgie, le ciel sur la terre. Et on le voit spécialement dans la liturgie orientale avec l'insistance sur les 2 épiclèses. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la consécration est rendue possible. C'est le Saint-Esprit qui fait que le Christ est présent. Et c'est le Saint-Esprit qui donne sa force. Et c'est pour ça qu'on retrouve les 2 invocations, donc une avant, qui transforme les oblats en corps et sang du Christ, et une sur l'assemblée qui fait que nous-mêmes, nous devenons corps du Christ. Alors la troisième partie, le chemin intérieur vers le royaume ou le pèlerinage intérieur. Grégoire de Nice nous dit que le monde intérieur est fait de sphères multiples, emboîtées les unes dans les autres, concentriques. Il en fait l'image de notre esprit. Nous sommes, selon lui, habités par des mondes créés par Dieu qui sont comme des sphères que nous pouvons découvrir. De même que nous expérimentons sensiblement le monde matériel qui nous entoure, de même, nous pouvons expérimenter spirituellement ces mondes intérieurs. Dans le mouvement de notre vie intérieure, notre esprit est attiré vers le centre de nous-mêmes, vers ce lieu où Dieu habite en nous. C'est lui qui nous attire. Nous devenons alors des pèlerins spirituels qui vont sans cesse à la rencontre du Seigneur qui est au profond de notre cœur. Il est l'unique centre, car il n'y en a qu'un. Plus nous avançons et plus nous sentons grandir en nous le besoin de connaître, de mettre du silence et de la prière d'adoration dans notre cœur. Saint Grégoire nous dit que ce mouvement n'aura jamais de fin, car Dieu est infini dans son être divin. Nous sommes entrés dans la vie éternelle qui n'aura pas de fin. Nous sommes dans le royaume. Nous comprenons que ce chemin de mystère nous dépasse, que nous en faisons une expérience très limitée. Les mystiques nous disent que plus ils s'approchent de Dieu, plus ils sont conscients d'en être loin. Plus ils cherchent à le connaître, et plus une sorte de ténèbre se présente à eux. Une ténèbre, et non des ténèbres. Mais comme un monde où les points de repère semblent disparaître. Grandit alors notre ignorance de Dieu. Dieu est bien toujours là. Nous avons conscience de ses grandeurs, mais elles semblent disparaître dans l'immensité. C'est comme si nous regardions la terre de loin et de plus en plus loin. Voilà qu'elle n'est plus qu'un petit point dans l'espace. Et même, voilà qu'on ne la voit plus. Saint Jean de la Croix appelle nuit, avec un S, ce qui est cette ténèbre, nuit de l'esprit, qui sont des nuits pour l'âme, parce que l'âme s'est plus approchée de Dieu. Et de ce fait, elle est entrée dans une plus grande lumière qui l'aveugle. Paradoxalement, la ténèbre est un surcroît de lumière. Les mêmes auteurs spirituels nous apprennent que nous avons à nous adapter à Dieu, à devenir des fils appelés à connaître l'infini rayonnement de sa gloire. Car c'est bien une expérience que nous faisons de sa gloire. Mais nous sommes faibles et nous portons la faiblesse du péché originel, de sorte que nos yeux sont éblouis par la lumière divine. Cette lumière éblouissante a deux aspects. D'un côté, elle enseigne la transcendance absolue de Dieu, devant laquelle même les plus hautes puissances des cieux, séraphins, chérubins et trônes, se voilent la face. Les séraphins brûlent au contact de la sainteté divine. C'est pourquoi ils s'écrient « Saint, Saint, Saint et Yahvé Sabaoth ». Sa gloire emplit toute la terre. Les montants de la porte vibrèrent au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée, nous dit Isaïe. Cette lumière est aussi celle de l'amour. Nous la comprenons mieux parce qu'elle rend Dieu plus près de nous. Jésus est entré dans nos sentiments humains. On peut dire que c'est pour nous habituer à Dieu qu'il est venu. Sans lui, la splendeur infinie de Dieu nous aurait été définitivement intolérable, insupportable. Il est, comme le Saint-Esprit, un paraclet, un protecteur de la puissance sans limite qui a créé ces mondes extraordinaires, ces monstrueuses galaxies de feu. Il est venu nous rendre capables de supporter la gloire divine en la tamisant pour nous. C'est sous des aspects créés que nous en vivons des aperçus fugitifs, comme des lueurs. L'Église est riche des expériences de ces saints et saintes qui les ont partagées. Le royaume est une réalité pour le monde de demain. La parole dit « Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que nous ne pouvons pas expérimenter ni entendre des paroles divines, tout cela nous sera donné dans le royaume. » notre chemin, dans le chemin de Jésus, est pour nous préparer à cette vision béatifique qui n'aura pas de fin. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait Jésus à Pilate. Il est néanmoins intérieur dans ce monde. C'est une réalité d'ordre spirituel, car Dieu est esprit. Saint Augustin comprenait dans son approche de Dieu que Dieu lui était plus intime à lui-même qu'il ne l'était lui-même à lui-même. Dieu n'est pas de ce monde, mais il le pénètre et le fait être. S'il s'en retirait, le monde ne serait plus. Dieu est la réalité invisible, originelle, de ce monde visible et matériel. Ainsi, le royaume, qui est la vie divine du Fils, peut être intérieur à ce monde et le pénétrer. Jésus disait au début de sa prédication évangélique, « Le royaume est au milieu de vous. » On peut même traduire « Le royaume est au-dedans de vous. » Il est au milieu de nous comme une réalité invisible, comme l'âme qui anime notre corps. On comprend dès lors qu'il n'y a pas à chercher une double intériorité, celle de notre vie intérieure et celle du royaume. Il n'y a qu'une réalité. On la trouve en entrant dans la vie spirituelle, c'est-à-dire dans la vie de l'esprit. Nous faisons donc notre pèlerinage par le don du Saint-Esprit qui nous entraîne dans une vie de connaissance et d'amour qui est la vie même des personnes divines. Nous sommes nés de Dieu et non de la chair ni du vouloir de l'homme. Nous sommes créés pour vivre avec Dieu, de sa propre vie dans son Fils éternel qui habite notre vie. C'est la vie intérieure. À la question « Qu'est-ce que la vie intérieure ?», un auteur répond tout simplement « C'est la vie qui est intérieure. C'est la vie selon le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour en nos cœurs. Vivre de vie intérieure, c'est inventorier au fur et à mesure des jours le corps du Christ. Nous le faisons avec notre propre intelligence, avec nos sentiments, et nous le faisons essentiellement par la prière. C'est pénétrer ce chemin d'écoute silencieuse de la vie du Christ qui nous habite. C'est l'accueillir, le regarder, le contempler, comprendre son mystère. C'est l'aimer, le préférer à toute autre chose, en faire son absolu déjà dans ce monde. Il faut refaire jour après jour ce travail, nous l'expérimentons. Il faut de la patience, de la ténacité pour recommencer chaque jour un même travail de prière, d'écoute silencieuse, de vie d'oraison, de don de nous-mêmes à nos frères et sœurs. Un jour, on prend conscience que ce travail a produit son fruit. En nous est née la conscience de la présence de Dieu. Une présence insaisissable, certes, qui fuit notre observation, indéfinissable, mais qui est bien là, qui nous habite, qui nous suit, qui demeure au cours de tous les événements de nos travaux quotidiens, des diverses situations. La prière est devenue le sentiment de cette présence. Notre esprit en prière parle à cette présence avec les mots de la parole, les mots du psautier. Notre esprit s'illumine d'une connaissance nouvelle, intime intérieure. Au fur et à mesure, il comprend mieux ce qu'il prie, ce qu'il lit de la parole, et il se met à l'aimer davantage. Il éprouve le besoin d'avancer. Quelque chose l'attire encore plus loin. On pourrait comparer cela à des insectes attirés par la lumière qui se lancent dans la flamme du cierge. La ténèbre, dont parlent Saint Grégoire et les mystiques, est ce que peut ressentir l'esprit au contact divin, quand il va plus près que l'ordinaire. C'est une expérience de Dieu qui peut déconcerter. On entend parfois des personnes dire « Je ne vois plus rien, je suis désolée, je perds mes points de référence. » C'est comme si Dieu n'existait pas ou n'existait plus. C'est une expérience douloureuse qui n'est pas une chute dans un gouffre, mais tout au contraire, une approche plus vraie de Dieu qui est au-delà de tout. On enferme très souvent Dieu dans nos limites. On veut lui faire dire ou faire selon nos volontés et nos désirs. Nous voulons qu'il obéisse à nos prières, qu'il nous réponde, qu'il nous exauce s'il est Dieu. L'entrée dans la ténèbre est un bien qui remet en place ce qu'est Dieu dans son immensité et nous-mêmes dans notre condition de créature. Cela n'enlève rien à la bonté de Dieu. Au contraire, elle apparaît encore plus, puisque nous voyons que Dieu, si immense, si infini, est aussi capable d'être si proche, d'être Jésus, venu nous aimer et nous ramener dans sa gloire. La ténèbre est une certaine façon la sécheresse que nous éprouvons dans l'oraison. Nous ne percevons plus rien. Nous serions même dégoûtés de continuer. Et pourtant, cet état intérieur est encore plus sain, plus vrai, plus fécond de grâce, parce qu'il nous rend plus proches de la passion de Jésus. Il nous mène au-delà de ce que nous cherchons d'ordinaire, c'est-à-dire de vivre normalement et pleinement les réalités terrestres. Mais nous ne sommes pas nés pour cela. Nous avons été créés pour une vie tout autre, une vie que seul Dieu peut donner et combler. Les saints et les saintes ont fait de ces dénuements, de ces appauvrissements, des moyens de plus grande union avec le Seigneur. L'amour s'est manifesté dans la lumière. La ténèbre est maintenant illuminée par la lumière de l'amour. Saint Grégoire parle alors de ténèbres lumineuses, de sommeil vigilant, de sobre ivresse. Autant de paradoxes pour signifier un mystère d'amour présent et en même temps inaccompli, une réalité qui reste voilée. L'âme est entrée dans la dialectique de la présence-absence. Elle vit le chant de l'épouse du Cantique des Cantiques, où l'épouse a trouvé son époux, sans pouvoir par contre le retenir. Il disparaît, parce que l'épouse n'est pas encore assez amoureuse pour le retenir. Elle s'occupe encore de choses insignifiantes. En même temps, l'époux disparaît pour accentuer le désir de l'épouse. La ténèbre de l'amour sera faite de la conscience de la grandeur de l'amour de l'époux et de la pauvreté de l'amour de l'épouse. Saint François avait cette conviction de la grandeur de l'amour quand il priait « Seigneur, fais que je meure par amour de ton amour. Toi qui, pour l'amour de mon si pauvre amour, as daigné mourir de si bel amour. Longtemps, on s'aime soi-même dans l'autre, même en croyant de bonne foi qu'on aime l'autre. En fait, c'est bien souvent sa propre image qu'on recherche à voir dans l'autre. On l'aime parce qu'il renvoie cette image. L'amour devient aigre doux quand l'autre renvoie l'image du vieil homme corrompu et vil, comme le dit saint François. Aimer l'autre, c'est l'aimer quand il accomplit encore cette fonction douloureuse du miroir, quand il nous renvoie l'image de notre vieil homme. L'esprit doit accepter et s'humilier, entrer dans un chemin de purification et apprendre à aimer à partir de l'homme nouveau, c'est-à-dire avec la vie que l'Époux, le Christ, insuffle en lui par le Saint-Esprit. C'est un long travail où l'esprit traverse la ténèbre de l'amour après avoir traversé la ténèbre de l'intelligence. C'est dans le Christ et en lui seul, le Christ de la Passion, de la Crucifixion, que l'amour se lave et prend le vêtement de lumière qui le rend conforme à l'Époux de lumière, le Christ lumière, Fils de la splendeur du Père. Le Cantique des Cantiques nous dit que l'épouse partie à la recherche de l'époux a été blessée, frappée par les gardes qui font la ronde dans la ville. La Passion du Christ marque ceux qui entrent dans la mort à eux-mêmes, dans le mystère pascal. L'amour du Christ est une force vive. C'est le fleuve de vie de l'Apocalypse qui transforme l'être. Le psaume 1 dit que le feuillage de l'arbre planté auprès du cours d'eau ne sèche pas. La vie du Christ est elle aussi inépuisable. Il est le Fils éternel, en qui le Père met tout son être paternel. L'aimer, c'est donc entrer dans la vie donnée en abondance, dans la vie inépuisable, celle qu'offre le bon berger. C'est cette vie bienheureuse qui nous hante tous. Nous la recherchons tous, qui que nous soyons. Elle est pourtant là, à deux pas, mais dans cette ténèbre qui nécessite un combat. Et c'est dans cette ténèbre qui nécessite un combat que nous la trouverons. Ce combat est précisément celui que nous menons, là où nous sommes, et ensemble, en communion les uns avec les autres. La grande condition de ce combat est le pardon, qui est la plus grande preuve de l'amour paternel que le Fils a révélé. Le pardon est la grande révolution que le Christ a introduite dans le monde. C'est à cet amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples.